chers auditeurs et chères auditrices. Nous commençons une nouvelle longue série et nous commençons par l'étude numéro 1. Chers auditeurs et chères auditrices, cette première partie, elle peut paraître un peu chaotique. Mais à partir du CD numéro 2 et 3, vous verrez, tout deviendra plus clair, plus facile à comprendre. Ça peut paraître, ce premier CD, un peu, pour certains, un peu bizarre, mais ne vous inquiétez surtout pas. Croyez-moi, je prie avant que le Saint-Esprit me guide et nous sommes tous imparfaits, moi le premier. Et il peut arriver que peut-être que je n'explique pas parfaitement une certaine chose, mais dans l'ensemble, vous verrez, ça s'éclairera. Et comme nous parlons de la lumière se fera en chacun de vous. Alléluia. Donc, nous savons que ce siècle est remarquable par ses progrès scientifiques énormes. La science exacte ne contredira jamais la sainte parole de Dieu. Le physicien de renommée mondiale, Albert Einstein, remit l'humanité sur le vrai chemin lorsqu'il donna au monde sa grande théorie de la relativité qui a rapport à la lumière. Cette théorie est en accord avec ce qui fut décrit dans la Sainte Parole de Dieu, voici plus de 2000 ans. Le temps est venu pour que tous les saints de la lumière connaissent et comprennent la théorie de Dieu concernant nos relations avec la lumière. Lorsque nous la connaîtrons et que nous la comprendrons, nous entrerons dans une nouvelle et puissante dimension avec notre Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là pour que je la partage avec les enfants de lumière qui ont été lavés dans le sang de l'agneau et qui marchent conformément à la révélation pour la fin des temps. Et voilà pourquoi ces CD se trouvent entre vos mains. L'origine de la lumière, c'est la lumière la plus grande des œuvres créées par Dieu. La création la plus importante et la plus puissante de Dieu, c'est la lumière. Sans elle, aucune forme de vie n'existerait. Elle est à la base de toutes les œuvres créées par Dieu. Tous les miracles commencèrent avec l'ordre divin « Que la lumière soit ». Genèse, chapitre 1, verset 3. Cette lumière, elle n'est pas celle du soleil, ni de la lune ou des étoiles. Ces corps célestes ont été créés plus tard. Genèse, chapitre 1, verset 14 à 19. Mais l'appel de la présence du Seigneur de gloire sur une planète dans un état de chaos et de désolation et sans forme, au milieu d'un vaste univers comprennent des millions de planètes, d'étoiles et de corps célestes. l'Esprit de Dieu plane sur la face de cette désolation, et depuis l'abîme le plus profond de cette planète, la voix de Dieu se faisait entendre au milieu du chaos. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Genèse chapitre 1, verset 4. La lumière est toujours associée au bien parce que sa source est en Dieu et Dieu est bon. Psaume chapitre 86, verset 5. Le mot hébreu désignant la lumière en Genèse chapitre 1, verset 3 est illumination, éclairage, bonheur, brillant, clair, jour, matin et soleil. Dieu est intimement lié à la lumière tout au long de la Sainte Bible. C'est lui le créateur de toute lumière. La gloire de Dieu était souvent vue sous forme d'une lumière lorsque la présence se manifestait au temps biblique. Voyez-vous, nous devons bien comprendre, la lumière, on l'a compris, c'est quelque chose de bien, de bon. Lorsque Dieu dit que la lumière était bonne, il attestait que la lumière a les attributs que sont la beauté, la bonté, la générosité, la grâce, le bonheur, la bienveillance, la joie, le plaisir, la valeur, la fertilité, la prospérité et l'indulgence. Le mot hébreu traduit par « bon » dans la Genèse chapitre 1, verset 4, signifie « toutes ces choses que je viens de vous dire ». Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 4. Le mot « séparé » en hébreu est divisé, séparé, différencié, coupé, discerné. Depuis ce moment-là, il y a eu une grande différence entre la lumière et les ténèbres. À la création, ce sont les ténèbres qui régnèrent sur cette planète. Il y avait des ténèbres sur toute la face de l'abîme. Genèse chapitre 1, verset 2. Mais quand Dieu créa la lumière, elle triompha des ténèbres, car elle est la plus puissante des deux. Les ténèbres sont la conséquence de l'absence de lumière. La lumière chasse toute ténèbres. Si vous entrez dans une pièce sombre et que vous allumez la lumière, le noir disparaît instantanément. Éteignez la lumière et le noir revient. La lumière domine et elle est plus grande. Ainsi le prince de lumière, Jésus-Christ, est plus grand que le prince des ténèbres, Satan. Regardons un instant le mot « ténèbres » dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. « Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. » Cela est traduit du mot hébreu signifiant « ténèbres, misère, destruction, mort, ignorance, chagrin, méchanceté, nuit, obscurité et mensonge. Il va de pair avec la malédiction et le jugement, et cela signifie parfois une vision détériorée. Je crois que lorsque Dieu créa cette planète au début, ce ne fut pas dans l'imperfection et le chaos décrit qui est décrit dans la Genèse, chapitre 1, verset 2. Quelque terrible holocauste a dû avoir lieu entre les versets 1 et 2, celui-ci jetant en quelque sorte la désolation sur cette planète. Dieu seul sait combien il y a eu de millénaires entre les versets 2 et 3, lorsque il a mis sa lumière afin d'accomplir cette grande œuvre de création en disant ces paroles fameuses, merveilleuses, qui ont retenu toute notre attention à travers les siècles, que la lumière soit. Nous avons le mot Elohim. Il est très intéressant de connaître l'origine de ce nom pour Dieu. Au commencement, Dieu, Elohim, il créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 11. En hébreu, ce nom masculin, Elohim, se trouve au pluriel. Certains spécialistes pensent que Elohim a un rapport étymologique avec El, le nom au singulier de Dieu, mais son essence exacte n'est pas certaine. Le nom Emmanuel comprend ce petit mot de deux lettres, El, voulant dire Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dans la Genèse, il est dit « Et la terre était désolation et vide. » Genèse, chapitre 1, verset 2. Regardons cette phrase curieuse de plus près. Elle parle de l'histoire ancienne de cette planète et devrait donc susciter en chacun un grand intérêt. Le mot « était » exprime une existence continue pendant une certaine période de temps. Quelle période incommensurable y a-t-il eu, peut-être, entre les versets 1 et 2 ? Dieu seul le sait. Quelle que fût la durée de ce fameux temps, cette planète était dans un état de désolation. La description qui est donnée dans la version King James, elle dit qu'elle était sans forme, ce qui vient de l'hébreu terre stérile, désolation d'une étendue, chose sans valeur, confusion, vide, endroit informe et désert. Il n'y avait ni structure, ni rythme, ni forme, ni beauté sur cette planète Terre. Elle ressemblait à une gigantesque masse de lave incandescente dont l'apparence devait ressembler aux conséquences d'une terrible explosion nucléaire jusqu'à ce que Elohim la toucha et que son Esprit Saint vienne planer sur les eaux. Alors que l'Esprit de Dieu planait, un éveil se faisait à la fois dans le cœur d'Elohim et dans la semence. Cette semence perdue et dévastée de cette planète. Lorsque Marie demanda à Gabriel « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Saint Luc, chapitre 1, verset 34. L'archange Gabriel lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra, elle sera appelée Fils de Dieu. Saint Luc, chapitre 1, verset 35. Marie conçut dans son sein la semence miracle de vie quand l'Esprit Saint de Dieu étendit son aile sur elle. Le Créateur Elohim se divisa lui-même toute forme de vie fœtale et créa par division et multiplication. Les cellules se divisent et se multiplient constamment pour former le corps de l'enfant. Et elle visita donc son sein sous la forme de fœtus humain. Il put ainsi faire cela, étant tout puissant. Il se créa un corps humain qu'il habita enfin de visiter l'homme sous la forme d'un homme, afin de ressentir la faiblesse de l'homme, pour le restaurer et qu'il devienne ce qu'il devait être à l'origine, c'est-à-dire fils de lumière et de gloire. Amen. De la même manière, Dieu créa ses premières œuvres qui sont connues lorsque l'Esprit de Dieu plana sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Quand Dieu sépara la lumière des ténèbres, il créa plus que notre jour et notre nuit. Il créa deux manières de vivre, la voie de la lumière qui est celle de la joie, la fécondité, le bonheur, le contentement, la prospérité, séparant ainsi pour toujours la lumière d'avec le labyrinthe des ténèbres, de la tristesse, de la destruction, de la mort, du chagrin et de l'ignorance appelée nuit. Le mot « jour » en hébreu ne signifie pas simplement une période de 24 ou de 12 heures. Il peut vouloir dire aussi un certain nombre de jours, une année, le présent, un laps de temps, la période de temps qui se trouve éclairée. Il est associé avec la souveraineté de Dieu et contrôlé par lui, car il créa le temps. Et il était avant, bien avant que le temps n'existât. Il a été donné à l'homme un jour de vie dont dépendra son éternité selon son choix. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler ou faire ses preuves. Saint Jean, chapitre 9, verset 4. Le jour est un temps de repentance, de salut, et c'est l'occasion de choisir le bien. Le mot « nuit », cela signifie se dégager de la lumière, c'est-à-dire vers la nuit. Puisque Dieu créa le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, il a aussi autorité sur les ténèbres. Certaines des œuvres les plus grandes de Dieu ont été accomplies de nuit. La naissance de Jésus-Christ, la nuit de la Pâque, Gethsémané, la visitation des anges auprès de Jacob à Bethel et sa lutte avec le Seigneur à Péniel. Nous avons tous connu notre nuit noire de notre âme, quand après l'agonie d'une sombre et longue nuit, Dieu nous a visités et a parlé au petit matin, alors qu'un jour nouveau se levait et faisait briller une lumière si glorieuse, si éclatante, qu'on en oubliait la douleur et l'angoisse de la nuit. Gloire à Dieu pour la nuit tourmentée dans votre vie. Si elle vous entoure encore en ce moment, ne la combattez pas, mais saisissez-la avec reconnaissance. C'est l'occasion de mieux connaître Dieu. Ne désespérez pas, car elle passera, et avec le jour viendra la joie. Le jour doit suivre la nuit. La lumière doit suivre les ténèbres. Ou bien Dieu n'est pas Dieu. Oui, Dieu créa la lumière. Elle recouvre cette planète et toute sa création. Sa lumière remplit tout l'univers, car il est omniprésent, et là où il est, là est la lumière. Chers amis, la lumière a son origine en Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. La lumière possède toutes ces mêmes attributs. C'est Albert Einstein qui développa la théorie de la relativité dont nous devons maintenant parler. Dans sa célèbre étude sur la lumière, il arriva à ses conclusions stupéfiantes. Premièrement, la lumière est constante. Deuxièmement, la lumière est la seule constante. Et troisièmement, la lumière est la seule chose invariable. Cette théorie a été reçue par les hommes de science comme étant la plus grande découverte de tous les temps dans le domaine scientifique. Mais l'apôtre Jacques avait déjà donné au monde cette vérité quand il dit « Tout ce qui nous est donné de bon est tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou ombre de changement. » Saint Jacques, chapitre 1, verset 17. Ce verset est remarquablement révélateur. Il confirme cette vérité dont nous parlions au premier chapitre, que la lumière provient de Dieu. Il, Dieu, est le Père, auteur et parent de toute lumière. Voyons maintenant la différence entre force, luchnos et lampo. Le mot lumière, tel que nous le voyons dans l'épître de Jacques, vient du grec phos, briller, se manifester, surtout par le moyen de rayons lumineux, feu. Il y a dans le Nouveau Testament trois mots signifiants de lumière et leurs significations sont très différentes. Phos n'est jamais allumé, donc jamais éteint. Mais luchnos est allumé par des mains humaines, telle qu'une lumière fabriquée par l'homme, une lampe, etc. Et elle peut être éteinte. Lampo signifie rayonner, irradier, éclairer, briller, reluire et illuminer. Le mot lampe provient de ce mot. Jacques décrit force, lumière, comme étant sans variation ou ombre de changement. C'est là l'attribut de la lumière véritable dont la seule source se trouve en Dieu. Elle est constante. La seule constante, elle seule, est invariable. Malachi, chapitre 3, verset 6, et Hébreu, chapitre 13, verset 8. Lorsque Dieu divisa et sépara la lumière d'avec les ténèbres à l'aube de la création, il le fit une fois pour toutes. Souvenez-vous que nuit vient de l'hébreu, ça veut dire se dégager de la lumière. En Dieu, le Père des Lumières, Jacques l'exprime ainsi. Il dit pas de variation ou ombre de changement. Saint Jacques, chapitre 1, verset 17. En fait, Albert Einstein découvrait Dieu en découvrant cette vérité concernant la lumière. Autre chose miraculeuse découverte par Einstein au sujet de la lumière, c'est qu'elle est éternelle. Il dit, si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, vous vivriez éternellement puisque vous iriez plus vite que le temps. Einstein dit cela parce que la lumière voyage à la vitesse incroyable de 300 000 km par seconde. Quelqu'un a fait cette comparaison, facilitant pour nous un peu la compréhension d'une telle vitesse. Si vous tirez un coup de fusil dont la balle voyagerait à la vitesse de la lumière, elle ferait 7 fois le tour de la Terre avant que vous n'ayez eu le temps de retirer votre doigt de la gâchette. La lumière est éternelle. Elle est la source de la manifestation de la vie. La création commença avec la lumière. La lumière ne change jamais. Elle ne meurt jamais. Elle ne peut être éteinte et elle ne le pourra jamais. Elle ne cessera d'exister, ce qui fit dire à Einstein, si l'on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, on vivrait pour toujours. L'apôtre Paul aussi comprenait la vérité de l'éternité de la lumière. Il écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Là, il écrit au sujet de Jésus-Christ qu'il est le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que lui seul possède l'immortalité, habitant la lumière inaccessible. Je répète, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, vous savez qui c'est? C'est Jésus-Christ, et lui seul possède l'immortalité, habitant la lumière inaccessible. Et donc ici, le fameux mot d'origine grecque pour lumière est phos. Aussi cette lumière qui n'a jamais été allumée et qui ne pourra jamais être éteinte, c'est la lumière éternelle. Plus de 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, avant la découverte par Einstein de l'éternité de la lumière, l'apôtre Paul avait déjà dit à Timothée qu'elle était immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne mourrait jamais, athanasia en grec. Le mot athanasia signifie non seulement immortalité, mais il est aussi utilisé pour parler du corps glorifié et ressuscité du croyant dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 53 et 54. Il ne s'agit donc pas simplement de la vie, mais d'une qualité toute particulière de la vie divine, de la gloire, de la résurrection. Christ est monté à la droite du Père. Il demeure dans cette lumière. Il est éternel. Kenneth Hagin a dit, « Lorsque la science découvrit l'infini du temps, on découvrit l'éternité de Dieu. Nous sommes des enfants d'éternité parce que nous avons découvert Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est celui qui est Elohim dans la Genèse, chapitre 1er. Toute matière se désintégrerait à la vitesse de la lumière. Einstein, qui disait que si l'on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, on vivrait éternellement, et il ajoutait par ailleurs, la matière ne peut voyager à la vitesse de la lumière, car dès qu'elle le fait, elle cesse d'exister. C'est ce qui arriva à Enoch. Il marchait avec Dieu, et un jour, il entra dans la lumière, et il ne fut plus, car Dieu l'a pris avec lui. Ce fut aussi le cas pour Élie, qui monta dans un char de feu et des chevaux de feu, et le firent, ils l'ont fait entrer dans le jour éternel. Leurs corps furent instantanément transfigurés de la forme matérielle à la forme spirituelle. Quand la lumière de Dieu vous illumine pleinement, vous entrez dans une nouvelle dimension où il vous est possible de sortir du temps. La matière toute chair cessera d'exister dans cet état charnel, alors que nous marchons dans la lumière, comme lui, Christ, est dans la lumière. Tout ce qui est charnel disparaîtra à la lumière de sa gloire, mais notre esprit vivra éternellement parce qu'il n'y a ni dégradation, ni régression, ni mort dans la lumière. Il nous a appelés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. C'est la raison pour laquelle nous avons la vie éternelle. Le miracle de la lumière a déjà pénétré dans nos esprits et il se transmettra à nos corps. Un de ces jours, nous disparaîtrons de ce monde comme l'ont fait Enoch et Élie. Il ne sera pas laissé un corps que quelqu'un enterrera. La matière glorifiée cessera d'exister en tant que matière, car elle sera ravie et glorifiée jusque en Athanasia. Au début de ce CD, je disais que la lumière possède les attributs de Dieu, omnipotence, omniscience et omniprésence. Cela veut dire que la lumière est toute puissante et qu'elle sait tout car elle révèle tout et qu'elle est présente partout à la fois. Avant de terminer cette étude assez courte, sachez qu'aucune puissance terrestre ou infernale n'a jamais pu empêcher la lumière de Dieu de briller depuis qu'il l'a appelée à être. Elle est toute puissante, pénétrant dans tous les noirs abîmes qui ont jamais existé, révélant les péchés les plus cachés, car il s'agit de la lumière de la connaissance de Dieu, celle qui révèle, qui transperce le cœur du pécheur, le convainquant ainsi de ses péchés cachés et oubliés. C'est aussi cette même lumière de Dieu qui, lorsque elle éclaire l'intelligence de l'esprit de l'homme, révèle les trésors merveilleux et cachés de Dieu, donnant ainsi à l'homme sagesse et connaissance. Aussi longtemps que Dieu existera, la lumière existera. Elle est présente partout dans ce monde et dans le monde à venir. Même l'enfer ne peut échapper à la lumière de Dieu. Si Dieu le voulait, il pourrait illuminer l'enfer demain. Mais dans sa lumière parfaite, l'angoisse des âmes séparées d'avec Christ serait encore plus grande, car si elles sont là, c'est qu'elles ont préféré les ténèbres à la lumière. Si elles avaient aimé la lumière, elles s'en seraient approchées, et cela pendant leur vie sur terre. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des œuvres mauvaises haït la lumière et ne vient donc pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées et qu'elles soient faites en Dieu. Saint Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Chers amis, nous avons fait une très courte étude et demain matin, Dieu voulant, nous continuerons cette série. Ce sera le numéro 2. Nous allons terminer par une courte prière. Ô Christ Jésus, ta victoire est celle du genre humain, ton destin est notre histoire, ta route est notre chemin. Béni sois-tu, Fils de l'homme, serviteur de l'Éternel, de quelque nom qu'on te nomme, triomphateur immortel, car tu as vaincu le séjour des morts. Les ténèbres du calvaire avaient obscurci ton front et tous leurs épais suaires étouffaient le moribond. Mais en vain, l'ombre farouche s'acharne sur le Sauveur. Le sépulcre où l'on te couche est le berceau du Seigneur. Désormais, nulle défaite ne brisera notre élan. Nous aurons le cœur en fête par la nuit et l'ouragan. Notre cause est invincible et vers l'ultime clarté se tend d'un geste infaillible le bras du ressuscité. Oui, Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire, car lui seul, de la terre aux cieux, franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli, car Christ est ressuscité. Qu'au Rédempteur vivant, notre âme soit unie à toujours, aimons de son amour saint, de sa sainteté, commençons sur la terre une nouvelle vie en attendant les cieux. Oui, Christ est ressuscité. Amen. Chers amis, à demain matin pour la suite de cette assez longue étude qui durera un certain temps. Alors, à demain matin, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.